journée historique, en tout cas les hommes ont décidé que cela resterait une journée historique, ça n'était pas évident, c'est le 8 mai pour nous ici en France et le 9 mai pour les Russes, c'est la victoire contre le nazisme. Nous sommes en ligne avec Alexandre Adler, bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Alexandre, la Russie est l'un de vos, vous qui êtes historien, l'un de vos thèmes de prédilection et encore plus, j'ai envie de dire, l'armée soviétique, tout ce qu'on voit revenir parce que vous avez vraiment analysé cette armée, ce pouvoir, ce Kremlin pendant des années. Et
Je vous remercie, mais c'est vrai, rien de ce qui est russe ne m'est étranger et je les comprends peut-être un peu plus que la moyenne parce que au fond j'y ai pensé depuis toujours. Je connais leur langue et je connais aussi leur façon d'être et puis je suis très proche d'amis qui d'ailleurs ont pris des positions un peu différentes. Pavel Lungin, dont je suis intimement avec lequel je suis intimement lié, est quand même un homme non pas du régime, loin s'en faut, mais en tout cas il a toujours été dans les allées du pouvoir, il a toujours fait attention à ne pas finalement tomber en disgrâce, et là encore il est apparemment neutre, apparemment bien entendu, mais par contre mon ami Garry Kasparov, que j'ai connu plus tard, lui est un homme déchaîné contre Poutine depuis le début. Il lui reproche beaucoup de choses, il n'a pas cessé, un peu tel Don Quichotte, de se battre contre lui et contre les moulins à vent. Et aujourd'hui, bien sûr, il est à fond dans l'opposition.
Alors justement, on a deux angles d'attaque pour essayer de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Soit on voit en fait deux Europes. L'Europe d'Emmanuel Macron, qui est une Europe de la construction européenne, qui veut accueillir l'Ukraine, qui veut la prospérité pour ses États membres. Bon, bref, l'Union européenne telle qu'on la connaît. Et il y a une autre Europe qui nous étonne, qui est celle de Vladimir Poutine, qui est faite de nationalisme. Il faut quand même savoir que, par exemple, à Mariupol, quand on a manifesté aujourd'hui, on a osé manifester avec le drapeau rouge. Il faut quand même se rendre compte, pour nous, Français, de voir des gens en 2022 qui en sont encore à manifester avec les drapeaux de l'armée rouge, mais sans essayer, j'ai envie de dire, de jouer un peu avec, c'est-à-dire de jouer avec les symboles.
C'est toute la folie hallucinatoire.
Mais c'est de la folie ce qui se passe. Alors,
je suis d'accord, mais il faut comprendre aussi que Poutine est dans une espèce de régression totale où il ne fait qu'exprimer, mais de manière un peu ridicule. C'est comme si nous parlions uniquement à part de la radio, de la TSF, hein, mais il y a eu une époque comme celle-là où le drapeau rouge signifiait quelque chose. On n'aimait pas beaucoup les Ukrainiens, je l'ai dit d'ailleurs quand j'étais en Russie une fois, j'ai dit « ouais, j'aime pas le peuple ukrainien parce qu'ils ont participé au génocide ». Et bien entendu, tout ça, c'était des idées, d'ailleurs très élémentaires, pauvres Ukrainiens, la grande majorité d'entre eux qui étaient dans l'Ukraine soviétique, ils ont fait leur devoir comme tous les soviétiques, ils sont fait casser la gueule par les Allemands et ils sont battus. Alors tout ça est injuste. Mais en même temps, il y avait quelque chose de ce genre, on a été élevé comme ça, et alors au fond, je les aimais pas. Et je vois que Poutine, qui lui est halluciné, et maintenant drogué en plus, en est toujours là, c'est-à-dire qu'il vit dans les rêves du passé. D'une certaine manière, ça fait un peu rigoler, c'est comme, si vous voulez, dans les caricatures de notre Premier ministre qui s'en va, on voit
le brave gars, un peu paysan,
oui, mais
un peu,
qui pense encore en termes de TSF, de l'ORTF et tout
ça. De Rick Azaray et de Sheila.
Vous avez trouvé les mots, c'est exactement ça. Eh bien, écoutez, une part de ça ferait rigoler si les gens ne mouraient pas comme des mouches avec les bêtises que fait Poutine. Mais effectivement, c'est que c'est ça, c'est Rika Azaray et Sheila à la mode russe.
Alexandre Adler, on se retrouve dans un instant pour essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté, si tant est qu'on puisse comprendre. Alexandre Adler, on poursuit notre réflexion avec vous. Et j'aurais qu'on revienne sur cette idée de nazisme, puisqu'on est le 8, le 9 mai, c'est la même date, paraît-il, en fait, pour les uns.
Oui, en réalité, mais c'est bien sûr, on le comprend, parce que la capitulation a été signée par la délégation allemande. C'était effectivement un 8 mai à Reims, et puis avec les fuseaux horaires, c'était déjà le 9 mai à Moscou. C'est la raison pour laquelle Moscou a utilisé cette date du 9 mai.
On a passé un son de votre amie Hélène Carrère d'Ancos qui dit « Mais non, les Russes n'y croient pas ». Mais je me demande si c'est vrai que les Russes n'y croient pas, qu'en face d'eux, c'est des nazis, parce que moi, je vois des gens en France qui y croient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont tellement dingues.
Il y a plus d'ignares et d'idéologues qu'il y en a en Russie. En Russie, quand même, on a quand même l'habitude, on n'a pas tout compris, mais on a quand même l'habitude que le pouvoir ment, et il ment absolument. Et donc, on n'y croit pas. Et les Russes font leur idée. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont... Il y a un tel nombre de champions d'Internet et qui réussissent à s'informer ou à informer les autres d'une manière absolument surprenante. Je reçois absolument toutes les nouvelles que l'on peut imaginer de Moscou, dont certaines qui sont ébouriffantes. Par exemple, Kabayeva, la femme supposée, enfin la femme... La trophy woman, oui, je crois qu'ils sont mariés, de Poutine, est refusée. Elle est actuellement dans le Pays Basque.
Elle est en
France, mais d'ailleurs, Poutine a fait énormément d'investissements immobiliers en France et il s'occupe beaucoup de la France. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup d'agents d'influence en France qui racontent n'importe quoi.
Alors, on va plus loin. Si les Russes ont compris que c'était pas des nazis, allez, on monte un étage.
Ben évidemment qu'ils l'ont pas compris, ils l'ont compris. Pour eux, les Ukrainiens sont des Russes comme eux. Alors, ils savent que c'est pas des nazis. Ils savent qu'il y a toujours eu des gens qui ont collaboré avec les Allemands dans le Nord. Et d'ailleurs, bien entendu, le général Vlassov qui s'est rallié aux Allemands ensuite pour pouvoir ne pas mourir de faim avec un certain nombre de malheureux. Eh bien, le général Vlassov, il est du nord de la Russie, il n'est pas de l'Ukraine. Et puis voilà, et puis d'autres, par contre, Demianiouk, qui était un des pourvoyeurs de la Shoah, il est ukrainien, voilà. Mais il y a autant de coupables dans le nord que dans le sud, et puis la Russie et l'Ukraine, c'est une seule et même famille. Alors, bien entendu, on peut raconter, ne parlons pas de la Biélorussie, mais bon, on peut raconter ce qu'on veut, mais enfin, tout le monde parle russe, et tout le monde pense de la même manière, je veux dire, pas des idées politiques, parce que là, les gens sont très diversifiés, mais la façon de sentir, la façon de ressentir, bien entendu, la Russie est un seul peuple.
Alors, là, je monte d'un étage. Est-ce que Vladimir Poutine sait que l'action de son armée en Ukraine est un fiasco, ou est-ce qu'il vit dans un délire ?
Alors, les deux. Pardonnez-moi de vous répondre comme ça, mais c'est comme ça, la Russie est toujours double. D'une part, il sait que c'est un délire qu'il a lui-même orchestré avec ses propagandistes, et il sait que tout ça n'a pas marché, et d'une manière terrible, puisque chaque fois qu'il y avait un objectif à atteindre, il n'a pas été atteint, et chaque fois, évidemment, les Ukrainiens ont répondu coup pour coup. Alors maintenant, il raconte que tout ça est un complot américain. C'est certain que les Américains ont formé et entraîné les gens parce qu'ils s'attendaient à cette affaire et ils avaient l'intention de casser la gueule à Poutine une bonne fois pour toutes parce qu'il l'avait mis en garde. C'est pour cela que les Américains ne sont pas du tout cyniques. Ils l'avaient mis en garde 100 fois et ils ont assisté d'abord impuissants à l'annexion de la Crimée et puis ils ont dit, après tout, il faut peut-être le supporter. Mais voilà, à un moment donné, ils se sont dit, il va continuer. La CIA est très présente à Moscou et partout, et elle écoute les gens qui parlent beaucoup, et donc elle savait tout, elle savait mieux que nous d'ailleurs. Peut-être quand même Macron a bénéficié des révélations américaines.
Mais... Il n'y croyait pas, on lui a dit, mais il ne voulait pas croire. Il disait, mais non, c'est de la propagande des Américains.
Oui, c'est ça, parce qu'il a vu que tout ça, toutes les sources étaient CIA, et évidemment, son entourage... à la DGSE, qui sont toujours à se fâcher, parce que voilà, ils ont des crédits, et puis ils n'arrivent à rien, alors donc les Américains sont mauvais, ou racontent n'importe quoi. C'est comme moi, qui suis un mythomane. Et puis après, les choses changent.
Mmh.
Et moi, j'ai encore rien coûté au fisc français.
Alors, il sait que c'est un fiasco, mais d'un autre côté, il s'enfonce.
Il peut
utiliser l'arme nucléaire, ou il n'ira pas si loin ?
Jamais eu l'intention d'utiliser l'arme nucléaire, et d'ailleurs il ne le peut pas, parce que depuis la crise de Cuba, il y a deux codes nécessaires pour actionner le nucléaire, même le nucléaire tactique. Et donc le deuxième code est entre les mains de Shoigu. Shoigu est en fait un mongol, profondément patriote mongol, qui a reproché qu'il y a une altercation, une algarade, et ça je le sais parfaitement, c'est pas une hypothèse, avec Poutine qui, lorsqu'il lui a dit, Poutine a dit, j'ai besoin de la Chine Donc je leur ai donné un certain nombre de choses, mais je le reprendrai. Alors c'est là que Shoigu le dit, tu es très gentil, mais il se trouve que le lac Baïkal, c'est chez moi. Et personne n'a droit de disposer de ma terre. Et il a dit, dans ces conditions, d'ailleurs, il y avait une position très différente que tu n'as jamais prise, qui était de s'entendre avec les Européens ce que moi je souhaite. C'est ça que lui a dit Shoigu. Et à partir de là, Shoigu est devenu son adversaire. Avant, il était tout à fait le chouchou parce que c'est un Mongol. Et les Russes sont toujours rassurés quand c'est un membre d'une minorité nationale qui est à la tête de l'armée parce qu'il ne fait pas un putsch.
Il n'est pas dangereux.
Marshal Zhukov, lui, c'est un vrai Russe et il a failli prendre le pouvoir. C'est pour ça que Khrushchev l'a licencié juste après lui avoir été redevable.
Alors, on a des chiffres qui sont totalement délirants, là aussi. Excusez-moi d'utiliser trois fois le terme, mais on n'est plus dans la réalité dont on a l'habitude.
On a l'impression que là, la vodka a coulé à flot dans l'ensemble d'un peuple. D'ailleurs, alors, ça arrive. Hein.
Si on en croit l'armée ukrainienne, on va prendre les précautions d'usage, on va enlever quelques milliers, mais enfin, vous vous rendez compte qu'on parle de quelques milliers. On a passé la barre des 25 000 Russes morts. Et aujourd'hui...
C'est tout à fait possible, mais on ne compte pas les déserteurs. Et je pense que parmi tous les gens qui ont disparu, il y en a beaucoup qui sont partis avec leurs armes pour se privatiser, exactement comme au Mexique. Ils sont devenus des gangsters, c'est eux qui font des attentats contre des malheureux, qu'ils dépouillent, etc. Alors bon, on va les retrouver, ceux-là, et on va finir par s'en débarrasser aussi. Mais effectivement, c'est quand même c'est quand même ça le flou de la statistique, s'ils ne sont pas tous morts.
Pas mal, intéressant, très intéressant. Donc ils sont plus de 25 000 morts, plus de 1100 tanks, etc.
25 000 disparus, on va dire.
Ou mis hors de combat. Donc, mis hors de combat, c'est au moins le double, parce qu'il y a des blessés. Poutine, il fait quoi maintenant? Il est capable d'arrêter?
Il n'y a pas un service de santé adéquat.
Ou il va détruire totalement son armée?
Elle est déjà détruite. D'abord, il n'en avait pas beaucoup. Ce n'est plus une armée de contingent. C'est une armée de mercenaires. Et tous ces gens étaient payés, et puis ils n'ont plus été payés. Et finalement, ils sont très démoralisés par les coups qu'ils ont pris. Et voilà. Et puis, il y a eu une promotion absolument, parce qu'il fallait venir encadrer cette armée. Donc, le lieutenant est devenu capitaine, le capitaine est devenu colonel, tous ces commandants, jusqu'à commandant, lieutenant-colonel, ils sont tous généraux. Ils sont inaptes. Ils n'ont jamais commandé véritablement de vraies formations. Et alors, on le voit. Ils sont mauvais comme tout. Et alors, ne parlons pas de l'amiral qui a finalement fait couler le seul bateau important qu'avait la flotte russe à Sébastopol. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'un bilan aussi lamentable, évidemment, les Russes sont à la fois médusés et puis ils rigolent. Parce qu'ils se disent, voilà ce que l'armée en carton-pâte de cet imbécile de Poutine.
Vous avez vu les images, il y a un site qui s'appelle Sputnik Note, c'est-à-dire c'est un faux Sputnik. Ils ont refait tout le défilé d'aujourd'hui et sur les chars, ils mettaient tout ce qu'avaient volé les Russes. Alors, ils mettaient même des toilettes, des tapis. C'est très facile à faire avec du Photoshop.
Ah,
c'est...
ça, l'armée, évidemment, ils volent.
Les airs conditionnés, tout ça qu'ils mettaient sur les tanks et ils défilaient sur le Kremlin.
Ils volent même les chiottes, mais oui, c'est extraordinaire. C'est ça qu'on voit. Parce que Dieu sait que l'armée russe a toujours été lourde. Elle a été pas toujours très bien commandée, elle a pas toujours été très sympathique, mais c'était une armée, et une armée de contingents, et les gens faisaient le service militaire, et sans être vraiment fiers, ils étaient disciplinés. Je parle de l'Union soviétique, que évidemment Poutine a encore dans son esprit, surtout qu'il a été un bon soldat lui-même. Bon, voilà. Et qu'est-ce que ça donne maintenant? Rien. Alors c'est une chose qui est absolument terrible, c'est-à-dire qu'il va falloir tout reconstruire. La perestroïka dont parlait Gorbatchev et dont Poutine s'est moqué cruellement, c'était ça, il fallait reconstruire le pays, et là il va falloir tout reconstruire et commencer à se débarrasser de Poutine, ce qui va venir mais au bon moment. Actuellement il a de l'argent, il a distribué beaucoup d'argent qui lui a été donné soit ouvertement, parce qu'il n'y a qu'un freinage, mais il a reçu des roubles comme il le demandait, donc le rouble est monté, il a pu un petit peu payer tout le monde. Mais c'est pour ça qu'il est une espèce de... il est un peu chaos, mais il a de l'euphorie. Et évidemment, avec tous les médicaments qu'il prend, ça s'aggrave. C'est-à-dire qu'il se raconte, mais si, j'ai gagné. Il n'a rien gagné du tout, bien entendu. Il en est au point d'utiliser ses mercenaires tchétchènes. C'est comme nous, si on appelait que les Sénégalais. Non, mais c'était incroyable. Et dans cette situation incroyable, évidemment, tout le monde a pensé qu'il fallait qu'il s'en aille. Mais les gens ne veulent pas se faire flinguer pour ça. Et il n'a pas tué tous les gens qu'il a arrêtés. Par exemple, Narychkin, qui est un authentique descendant du tsar et de la famille la plus importante, a déjà été désigné par le petit groupe des comploteurs comme celui qui va lui succéder. Et d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, et puis il a été arrêté. Alors, certains peuvent penser que c'est mes campagnes insistantes qui l'ont, mais non, bien sûr que non. Mais à un moment donné, il ne s'est plus retenu, et il a arrêté. Mais personne ne le tue. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que tous ces flics et tous ces assassins qui sont au service du pouvoir, là, ils se posent des questions. Ils se disent, il va rester, il ne va pas rester. Et donc, ils se disent, il est urgent d'attendre. Il ne faut pas, comme on disait Edgar Froy, il ne faut pas injurier l'avenir. Ben, les flics en Russie, les salauds et les assassins n'injurient pas l'avenir. Sans compter que beaucoup se sont protégés. Deribaska, par exemple.
Non, Alexandre, on n'aura pas le temps, malheureusement. Dieu sait que c'est passionnant.
Un mot simplement. Deribaska, c'est l'homme le plus riche de Russie. Ben, il a ouvertement défié Poutine. Je pense qu'il a aussi une bonne dizaine de milliers de gardes du corps autour de lui.
Alexandre Adler, merci pour ces quelques paroles. C'est bourré de révélations, comme à chaque fois. Je vous remercie, malheureusement.
C'est moi qui vous remercie.
19h. Bonsoir
et
à vous.
Et Shabbat Shalom.
Shavuot Tov. Les 30, Alexandre Adler, et tout de suite le journal de Pierre Gandus.